autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour tenter de penser autrement notre monde et ses bouleversements, en s'inspirant du vivant, de la formidable robustesse du vivant qui lui permet de résister sur le long terme à toutes les fluctuations. Mais comment ? Notre invité, le chercheur Olivier Hamant, aussi interdisciplinaire qu'indiscipliné, a découvert, à partir de ses recherches en biologie végétale à l'INRAE, que le vivant n'était pas si performant que ça, ni optimal non plus, ni très cohérent. Et si c'était précisément cette incohérence, ces boucles incohérentes propres au vivant, dont il fallait s'inspirer pour faire face aujourd'hui aux défis de notre monde, en pleine mutation, en plein dérèglement et toujours plus complexe. Et s'il nous fallait bifurquer vers une troisième voie, celle du vivant, pour reprendre le titre du premier ouvrage d'Olivier Hamant, aujourd'hui directeur de l'Institut Michel Serres, auteur aussi d'un antidote au culte de la performance et tout récemment de L'incohérence, aux éditions Odile Jacob, sous-titré « Philosophie politique de la robustesse », ouvrage décapant et inspirant dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert, autour de la question « Pourquoi faire l'éloge de l'incohérence ?» Bienvenue pour découvrir ensemble une autre manière d'être et d'habiter le monde ensemble. Bonjour Olivier Hamant.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Rhône-Alpes à Lyon, où vous êtes chercheur en biologie, en physiologie végétale à l'INRAE, au sein de l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes également, Olivier, directeur de l'Institut Michel Serres, et c'est pas vraiment un hasard. Si c'est dans l'inspiration de ce philosophe des sciences, lui aussi interdisciplinaire et très indiscipliné, que vous initiez de nouvelles voies, de nouvelles relations à tisser entre tous les vivants, car c'est précisément le vivant, et même le vivant végétal, qui vous a ouvert les yeux, si j'ose dire, sur l'art et la manière de faire face aux fluctuations, aux bouleversements, aux crises, dans un monde complexe et surtout dans la durée. Ce n'est ni l'optimisation, ni la performance, mais plutôt la robustesse du vivant, avez-vous découvert, qui résiste le mieux aux fluctuations. Le vivant, alors je vous cite, résiste mieux aux fluctuations en étant moins performant, moins optimal, moins cohérent. On aurait donc tout faux, Olivier Hamant, nous les humains, en tout cas dans notre monde aujourd'hui, aussi incertain et fluctuant que ça.
Alors nous, c'est vrai qu'on a misé sur la performance à fond. On est en fait dans une sorte de dérive sectaire de la performance.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à la critiquer finalement. Alors qu'il y a beaucoup d'arguments contre. Hein. On est quand même dans un monde qui est en burn-out. Alors burn-out des humains, burn-out des écosystèmes.
Ouais,
donc on l'a sous les yeux, hein, le résultat de la performance.
Alors, dans votre ouvrage, déjà, premier ouvrage, La troisième voie du vivant, puis ensuite dans Antidote au culte de la performance, sur la robustesse du vivant, vous mettiez en avant, finalement, cette robustesse du vivant. Vous l'avez découvert, vous, à travers des végétaux, en tant que chercheur en biologie végétale.
Oui, c'est ça. En fait, alors c'est aussi un parcours. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes études de biologie, on m'apprenait beaucoup de choses très programmatiques et donc
c'est
plutôt
ça.
Coincé dans le monde de la performance. Et puis quand on commence à creuser un peu la question, on se rend compte qu'il y a des contre-performances à tous les tournants. Et après, on se rend compte que c'est vraiment partout, que c'est dominant. Quoi. L'exemple typique, hein, c'est la photosynthèse qui quand même nourrit la plupart des écosystèmes sur Terre. Hein. C'est ce qui permet de transformer du CO2 en fibre de carbone. Et ben, son rendement énergétique, il est de moins de 1%. Donc ça veut dire que les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire, donc c'est pas du tout performant. Par contre, c'est très robuste, c'est là depuis 3,8 milliards d'années.
C'est ça, et c'est cette question de la robustesse, hein. C'est ça qui doit nous inspirer, et nous inspirer dans tous les domaines, vous l'avez dit, parce qu'aujourd'hui, cet ouvrage donc, publié aux éditions Odile Jacob de l'incohérence est un ouvrage de philosophie politique de la robustesse. C'est-à-dire que nous pouvons et nous devons nous en inspirer aujourd'hui, face aux crises qui nous guettent et qui sont déjà là.
Alors, plus que jamais. Dans le premier livre, je manquerai vraiment dans la crise socio-écologique.
Mm-hmm.
Mais il ne faut pas oublier que le maillon faible là-dedans, c'est le maillon social. En fait, on dit souvent qu'il faut sauver la planète, mais la planète, elle va s'en tirer, il n'y a pas de problème, elle en a vu d'autres. Nous, par contre, la société, on n'a que 10 000 ans, hein, le néolithique, hein, quand on invente l'agriculture, la sédentarisation, il n'y a que 10 000 ans. Et du coup, on est très fragile. Et en plus, ces 10 000 ans de stabilité climatique, alors il y a eu des petites instabilités, mais là, on rentre dans un monde très fluctuant, les méga-feux, les méga-inondations, les remous sociaux, les crises géopolitiques. Et du coup, cette leçon du vivant, cette robustesse, donc maintenir le système stable malgré les fluctuations, se construire sur les fluctuations, c'est pour moi la leçon essentielle du vivant dans le monde qui vient.
Et qu'est-ce que vient faire l'incohérence là-dedans ? Alors, justement, pour résister dans un monde complètement mouvant, c'est pas sur la cohérence qu'il faut compter ? C'est un peu ça ce que vous voulez nous dire ?
Exactement, il y a un risque cohérent. Enfin, il y a un risque surtout d'injonction de cohérence. En fait, quand on est cohérent, hein, je vais forcer le trait. Hein,
oui, mais bien sûr.
Quand on est cohérent, eh ben, en fait, on est dans l'addiction. En fait, on ne questionne plus rien, on est dans une forme de dérive sectaire. La secte, c'est l'archétype de la cohérence, finalement. C'est tout le monde est d'accord, on suit le gourou jusqu'à faire un suicide collectif. Enfin, je force le trait
encore une fois. Oui.
C'est une courbe exponentielle. Quand on ne met pas du jeu dans les rouages, quand on ne met pas des contradictions internes, ça part en exponentielle et ça se termine très mal, toujours. Hein.
Donc il faut essayer, il faut essayer de mettre de l'incohérence autour de cette question. Pourquoi faire l'éloge de l'incohérence et de la robustesse ? On comprend bien que les deux vont ensemble. Je propose tout de suite justement dans le vivant l'éclairage de l'ornithologue Frédéric Giguet. Il est spécialiste des corneilles et aussi des oiseaux migrateurs. Il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Il est aussi l'auteur de Que vivent les corneilles ? Il était notre invité la semaine dernière, Frédéric Giguet. Et voilà la réflexion que vos recherches sur l'incohérence lui ont inspirée.
Dans un monde qui change trop rapidement pour que la biodiversité puisse s'adapter petit à petit, l'incohérence va peut-être créer les originalités qui vont permettre la survie de certains individus, donc populations, donc espèces. Oiseaux migrateurs, si je pars pas du tout dans la bonne direction, je vais peut-être trouver une nouvelle ère favorable d'hivernage et permettre à mon espèce de s'adapter à un climat, une météo qui change et qui fait que je ne peux plus aller passer l'hiver là où j'allais avant. Et nous, on a fait un travail récent sur le pipite de Richard, c'est une sorte de grosse bergeronnette, originaire d'Asie, mais il y en a de plus en plus qui hivernent en zone méditerranéenne. On les a équipés de petits enregistreurs et on a montré qu'ils vont se reproduire toujours en Sibérie, mais que ce sont les mêmes oiseaux qui ont une nouvelle voie de migration. Avant, c'était des égarés. Il y en avait quelques-uns par an en Europe. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Et c'est une nouvelle voie de migration qui s'est installée.
Grâce aux égarés.
Grâce aux égarés du début, mais qui ont développé une stratégie viable et qui peuvent retourner en Sibérie, en Mongolie, pour nicher et revenir passer l'hiver chez nous.
J'imagine que vous voulez réagir à cet exemple très parlant hein, d'oiseaux migrateurs égarés qui ont réussi à ouvrir de nouvelles voies, d'autres voies, Olivier Hamon.
Exactement, on peut le dire en une phrase, hein, les pionniers sont toujours incohérents. En fait, ils sortent du groupe. Et sur l'air, les oiseaux, c'est merveilleux pour ça, parce qu'on peut penser aux nuées d'oiseaux, hein, notamment les nuées des tourneaux, par exemple. En fait, on peut se demander, mais comment ils font pour savoir comment tourner à droite ou à gauche tout le nuage, quoi. Ben, c'est toujours les oiseaux à la périphérie, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont sensibles aux fluctuations du monde. Ceux qui sont au cœur de la nuée ne voient rien, en fait. Ils ne voient que leurs voisins, et donc ils ne participent pas au changement de direction. Ceux qui changent les directions, ce sont les marges. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, si on veut savoir où va le monde, il faut regarder ses marges, sa périphérie, parce que c'est là qu'il y a les signaux faible du futur monde fluctuant.
C'est un sacré changement de paradigme hein, que vous nous faites vraiment faire un pas de côté, c'est-à-dire ne plus être dans la pensée unique, dans la voie du milieu, mais aller voir à la marge parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui.
Ah oui, absolument. En fait, on est dans un monde qui devient très fluctuant. En fait, c'est ce que je dis souvent, on est en train de quitter le néolithique. Le néolithique, c'est quand les humains voulaient contrôler la nature. Mm-hmm. Et là, notre excès de contrôle nous fait perdre de contrôle. Et donc, il va falloir apprendre à vivre dans un monde très changeant, très turbulent. Et donc, tous les logiciels, tous les principes qu'on a précédents sont obsolètes. En fait, le monde de la performance, c'est un monde qui fait l'hypothèse d'un monde stable et abondant en ressources. Ce sont deux hypothèses fausses. Nous rentrons dans le monde turbulent et en pénurie chronique de ressources. Donc du coup, forcément, on fait plutôt de la robustesse.
Et oui, c'est ça. Donc il faut revenir et regarder et voir ce qu'on n'a pas tellement voulu voir. C'est-à-dire comment s'en sort le vivant dans des environnements qui sont aussi de plus en plus complexes et dans des environnements systémiques aussi, Olivier Hamon.
Exactement. Alors, c'est ça ce qui est génial avec le vivant, en fait, c'est qu'on a vraiment des recettes sous les yeux. Je peux prendre l'exemple de la croissance des plantes. Mm-hmm. Les plantes croissent en freinant. Donc, ce qui est typiquement incohérent. Hein.
Et oui, oui.
Donc, en fait, elles ont de l'eau, donc elles sont gonflées. Et ce qu'elles font quand elles font de la photosynthèse, c'est de synthétiser de la cellulose qui est aussi rigide que l'acier. Et donc, en fait, elles sont en train de se rigidifier quand elles poussent. Donc, l'image que je prends souvent, c'est l'automobiliste qui aurait le pied sur le frein et l'accélérateur en même temps. Ben, ça, c'est une bonne image pour la croissance d'une plante, quoi. Donc, c'est totalement incohérent, mais par contre, c'est très adaptable. Ça permet aux racines, par exemple, de s'arrêter de grandir s'il y a des nutriments, de continuer s'il n'y en a plus. Enfin, donc, d'être toujours à l'écoute du monde.
À l'écoute du monde et vivre l'incohérence en quelque sorte, c'est quand même compliqué pour nos esprits humains. Alors, rationnel, et parce qu'on n'est pas habitué à ça, et parce que le discours dominant ne nous entraîne pas là, parce que c'est vraiment, il faut vraiment tout changer, dans nos têtes en tout cas.
Alors, c'est vrai qu'il faut tout changer, mais c'est, en fait, ce qui est très étonnant, c'est que c'est un dogme qui est assez récent, ce culte de la performance. En fait, quand on regarde dans l'histoire du contrat social, il y a du déjà-là robuste, partout et qui est basé sur des incohérences. On peut penser au secret médical en médecine, au secret des sources pour les journalistes.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
Et bien en fait, ce sont des freins internes, ce sont des contradictions internes qui évitent les trajectoires exponentielles. Le quota de pêche, c'est l'exemple typique. Hein. S'il n'y avait pas de quota de pêche, s'il n'y avait pas de régulation, finalement, on épuiserait les poissons. Bon, c'est un peu ce qui se passe actuellement, mais on a quand même pensé à des formes de freins internes. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, le contrat social, quelque part, il est bio-inspiré, on pourrait le dire comme ça. C'est-à-dire que nous aussi, les sociétés humaines, on a reconnu qu'il fallait des contradictions internes dans nos systèmes sociaux pour permettre la durabilité.
Mais on l'a oublié, ça, parce qu'on a aussi l'impression individuellement, je ne sais pas vous, mais moi, qu'on est plein de contradictions. Donc, on l'a oublié, ça, qu'on était incohérent comme tout le vivant, finalement, et que c'est peut-être même pour ça et comme ça que ça marche.
Alors, on l'a un peu oublié. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a inventé des machines extrêmement performantes. C'est la fameuse phrase, hein, les humains sont les organes sexuels des machines. ce qui veut dire qu'en gros, on est en train de reproduire des machines. Et notre rôle, finalement, on est en train de courir derrière la performance des machines qui deviennent de plus en plus autonomes à cause de leur niveau de performance supérieur. Et du coup, c'est un peu cette obsession, cette addiction aux machines, hein, que ça va du smartphone à Internet, à l'intelligence artificielle, qui nous pousse à aller vers encore plus de performance. Et du coup, on se regarde le nombril au lieu de regarder le monde. Et du coup, on est trop cohérent et pas assez incohérent.
C'est ça. Et du coup, on a tout faux. Vous parlez d'addiction, vous parlez de performance, d'optimisation. Tout ça, ça va ensemble. Et ce que vous proposez, vous, c'est une autre voie qui cherche plus d'essais, d'erreurs, de contradictions, d'incohérences et du coup de robustesse. Parce que pour durer, il faut peut-être tout ça, quoi.
Exactement. En fait, il faut du jeu dans les rouages pour que ça puisse tourner. En fait, si on se rigidifie quelque part, si on devient très cohérent et que du coup, on ne peut plus rien écouter, la cohérence est excluante. Hein, c'est vraiment ça le principal.
Oui.
Et du coup, quand on exclut tout le monde, ben, on devient très fragile. Ce qui fait la robustesse, en fait, c'est la sécurité en version robuste, c'est de maintenir et d'entretenir son tissu social. Donc, c'est de multiplier les interactions. C'est ça qui donne un sentiment de sécurité et qui fait vraiment de la sécurité. Mais du coup, c'est très incohérent. Parce que la sécurité en version performante, ce serait plutôt de mettre des barricades, des caméras augmentées et tout ça. Ça c'est hyper fragile, hein, évidemment. Ça dépend de technologie, on n'a plus de lien avec personne. La sécurité en version robuste, c'est tout le contraire. On s'ouvre aux autres, quoi. Et donc, on met du jeu dans le rouage. Ça veut dire qu'on apprend à parler à des personnes qui ont des traditions différentes, qui ont des cultures différentes. On apprend à résoudre des conflits. Donc, ça veut dire qu'on s'expose à des conflits, mais des petits conflits, pour comme ça apprendre à communiquer, à discuter, quoi.
Autour de la question, pourquoi et comment faire l'éloge de l'incohérence? Vous commencez à nous convaincre, mon cher Olivier Hammond. Pas étonnant du tout, en tout cas, que votre choix musical se soit porté sur une superbe chanson d'Anne Sylvestre, Les gens qui doutent. Nous, sur RFI, on vous la propose précisément dans une version plus récente, signée Marc Namour et Loïc Lantoine, Les gens qui doutent sur RFI.
J'aime les gens qui doutent, les discrets, les silencieux, vieux, ceux que personne n'écoute, ceux qui se perdent en cours de route. Ceux qui passent entre les gouttes, les réservés, ceux qui marchent en dedans. J'aime ceux qui groovent sur un autre temps, un peu maladroit, un peu lent. Ceux dont les appuis vacillent à contre-vent. J'aime ceux dont le nom dit en dit long, loin des slogans grandiloquents bidons. Ceux dont le nombril ne fait pas d'ombre, il s'efface, ni pigeon ni leader d'opinion. Ceux qui restent à l'écart quand l'assurance de l'arrogance avance, qui se questionnent en permanence. Ceux qui n'ont pas de réponse, ni fer de lance. À leurs yeux, la grande gueule n'a guère de sens. J'aime les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent.
Oui, j'aime les gens qui doutent. Ceux qui ne tirent pas la couverture, ceux qui brillent par leur ouverture. Ils ont la plume dont les lignes souvent se raturent, ceux dont les pieds ne sont pas sûrs. J'aime ceux qui tapent à côté, ceux qui se plantent, qui n'emmènent pas l'arche quand ils retentent. La peur de mal faire les terrifie, les hante, ceux dont la voix parfois déchante. Eux, ils ne détiennent jamais de vérité, sont toujours en retrait et tu peux le vérifier. Éternel apprenti rempli d'humilité, eux s'ils ne veulent pas la lumière c'est par timidité. J'aime leur souci d'imperfection, leur hésitation à chaque nouvelle intersection, leur mesure, leur tenue, j'aime leur perception, leur prise de recul avant l'interjection. J'aime les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent.
Oui, j'aime les gens qui doutent.
Remix signé Marc Namour et Loïc Lantoine sur RFI, des gens qui doutent, reprise d'Anne Sylvestre. J'aime les gens qui groovent sur un autre temps, les éternels apprentis. C'est pour vous, hein, Olivier Hamon, cette chanson. Pas étonnant que ce soit votre choix musical, n'est-ce pas?
Oui, oui, ben le doute, c'est une forme d'humilité, c'est accepter sa vulnérabilité. Et en fait, c'est pas seulement une position morale, hein, c'est vraiment quelque chose de profond. Pour communiquer, en fait, si on veut communiquer de façon effective, il faut pas que ce soit précis. C'est quand c'est imprécis qu'on a des aspérités sur lesquelles s'accrocher et donc on peut lancer la discussion. C'est l'imprécision qui rend la communication universelle, finalement.
Ah, magnifique, ben, il faut juste le voir, là. C'est ça. Hein,
oui, ouais, exactement, voilà, faut en faire quelque chose. Et on le voit, en fait, les erreurs, bah même moi, quand je brouille sur les mots et tout ça,
ouais,
bah ça mes erreurs peuvent créer un climat de confiance. Si je parlais comme un robot très précis, je pense que tout le monde aurait peur.
C'est ça. D'ailleurs, on nous demande souvent de vérifier qu'on est bien humain en mettant une petite croix ou en reconnaissant des feux dans des cases. Je rappelle, Olivier Hamon, que vous êtes chercheur, biologiste, directeur de l'Institut Michel Serres et que vous venez de publier De l'incohérence, philosophie politique de la robustesse aux éditions Odile Jacob, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook autour de la question: pourquoi faire l'éloge de l'incohérence en cette semaine du cerveau? Nous étions hier, vous le savez, en direct dans ce studio avec un chercheur que vous connaissez bien, Olivier Hamon, le neuroscientifique Mathias Pessiglione, qui dirige l'unité de recherche INSERM à l'Institut du cerveau sur la motivation, le cerveau et le comportement, et il nous a laissé une question pour vous.
Oui, j'aimerais poser une question peut-être à mon vieil ami Olivier Hamon. J'aime beaucoup son concept de robustesse qu'il a dégagé au cours de ses études scientifiques en biologie végétale. Et alors, je dois confesser que je n'ai pas lu son dernier ouvrage, mais je sais qu'il y fait l'éloge de l'incohérence. Et la réflexion qui me venait à l'esprit comme ça, c'est: est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à faire l'éloge de l'incohérence quand toute la démarche scientifique qui implique la dispute, l'échange d'arguments, repose au contraire sur une volonté de cohérence?
Que pouvez-vous répondre, Olivier Hamon, à votre vieil ami Mathias Pessiglione?
Oui, j'aime beaucoup ce qu'il dit, Mathias. Alors, du coup, il me semble qu'ici, en effet, il y a pour l'incohérence, ou plutôt la cohérence, c'est un très bel objectif. Mais pour moi, c'est une très mauvaise stratégie.
Ah, c'est à atteindre, mais c'est pas ce qu'il faut qu'on emploie sur le chemin, quoi. C'est
exactement
ça.
Si on impose la cohérence à toutes les étapes du processus scientifique, alors on va dans une dérive sectaire. Si au contraire on autorise les incohérences, les débats contradictoires, d'ailleurs comme le disait Mathias, ben ça c'est de l'incohérence finalement. C'est en fait mettre du carburant pour alimenter les discussions. Ben là, du coup, on fait passer des tests de robustesse sur nos résultats scientifiques et ce que ça produit, c'est de la cohérence. Mais la cohérence, c'est le produit final. C'est-à-dire que c'est pas nous qui décidons d'être cohérents, on décide plutôt d'être incohérents.
C'est ça. Attention à pas nous enfermer dans la cohérence. En fait, c'est un peu ça que vous voulez dire, ou dans une démarche complètement carrée, définie et optimale. Enfin...
Exactement. Et d'ailleurs, dans la science, c'est un problème, hein, parce que en fait, les chercheurs sont des humains comme les autres, hein, et du coup, on choisit des questions de recherche parfois un peu dans les modes cohérentes du moment. Il y a beaucoup de projets actuellement sur la géo-ingénierie, par exemple. Bon, bah, ça, c'est des projets qui vont à peu près nulle part, hein, sans vouloir être polémique. Mais
oui, pour résoudre notamment le réchauffement climatique, voilà. En envoyant, je ne sais pas, en fabriquant d'autres nuages, ou enfin voilà, encore une fois, en essayant de prendre le contrôle et de maîtriser.
Voilà, le techno-solutionnisme un peu radé pâquerette, mais par contre, c'est très cohérent avec voilà, la question climatique. Mais du coup, là c'est très important d'être incohérent et de mettre du débat dans ces questions-là. Quoi.
D'autant plus en ces périodes incertaines, troublées. Alors moi, je pense tout de même que, comment dire, nos dirigeants ne vous ont pas beaucoup lu ou beaucoup écouté, parce qu'il y a un terme, il y a un mot qui revient notamment dans le discours politique cette année de notre président, Emmanuel Macron, un mot qui vous fait réagir. Petit mix tout de suite de plusieurs récents discours de notre président, donc Emmanuel Macron, sur le réarmement.
Réarmement industriel, technologique, scientifique.
Nous sommes en guerre.
Réarmement économique, ce réarmement de notre souveraineté européenne.
Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. C'est pourquoi, comme je l'ai indiqué le 31 décembre dernier lors de mes vœux, nous engagerons un réarmement civique.
Réarmement à tous les étages. Olivier Hamon, j'ai envie de vous entendre là-dessus, parce que moi j'ai un peu du mal aussi avec ces mots aujourd'hui, ce mot quand même terriblement guerrier, et puis on est sûr, on a compris, et on se réarme et on va gagner la guerre.
Oui, alors ça c'est... Donc en fait c'est caricatural. Hein.
Oui, bien sûr, donc, là on joue dans la caricature, bien sûr.
Oui, bien sûr, j'adhère. Hein. En fait, ce qui se passe ici, là, c'est qu'Emmanuel Macron, donc, on sait très bien que c'est plutôt de l'économie néolibérale, une passion pour l'efficacité, hein. Le mot efficacité aussi est prononcé un certain nombre de fois.
Ouais.
Et donc quand on est dans l'efficacité, on est dans la performance. Alors du coup... Quand on est dans la performance, qu'est-ce que ça amène, ça ? Ça amène à plutôt soutenir la compétition, la compétitivité. Mmh. Et dans la compétition, qui gagne ? Ce sont les plus violents. Ce sont toujours les plus violents qui gagnent dans une compétition.
Ah, donc, si en fait, on dit compétition, on dit automatiquement plus fort et plus violent, quoi, c'est ça ?
Exactement. C'est, en fait, l'équation est très simple. Hein. C'est performance induit la compétition induit la violence. Mmh. Et du coup, on est dans un monde... Et alors, donc, Emmanuel Macron, c'est dommage parce qu'en fait, on est dans un monde qui, justement, est en train de changer de logiciel. On est beaucoup moins dans la performance. Il y a des tas d'initiatives qui vont vers la robustesse, hein, l'agroécologie, le tout réparable. En fait, il y a des tas d'exemples comme ça où on voit qu'on sort de ça, de la compétition. On va plutôt dans des modèles de coopération. Et là, en fait, on reste encore dans ce vieux monde de la performance. L'exemple typique, hein, qui, pour quand même dire quelque chose de positif sur Emmanuel Macron, c'est qu'il il a fait la Convention citoyenne pour le climat.
C'est vrai.
Ça, c'était une très belle initiative. 150 citoyens tirés aléatoirement, des climato-sceptiques dedans. Donc, il y a des incohérences, hein, là aussi, dans cette Convention citoyenne pour le climat. Et du coup, ça a produit 149 propositions très ambitieuses, approuvées à 96% par les citoyens. Donc ça, c'était un grand moment de puissance. Et puis Emmanuel Macron, qui a toujours son logiciel de la performance, très, très cohérent avec ses performances.
En même temps.
Et du coup, paf, il a choisi certaines lois, il en a écarté d'autres, il en a ajusté d'autres, et du coup, il a rebasculé dans le pouvoir. Ben là, on voit très bien que le pouvoir rend impuissant. Pouvoir rend impuissant, ça stérilise, quoi.
Encore une incohérence, si j'ose dire, mais qui se vérifie finalement. Le pouvoir rend impuissant. La robustesse non plus n'est pas toujours ce que l'on croit, parce que vous employez beaucoup ce terme, et je crois que c'est très important, parce que la robustesse, c'est sur la durée. Mais la robustesse, c'est un terme d'ingénierie, c'est un terme de machine aussi.
Oui, exactement. Alors c'est vrai que le mot robustesse, c'est un vieux mot, hein, à vrai dire,
robustesse. Bien sûr.
Mais en fait, c'est donc la robustesse, hein, c'est vraiment maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc ça, c'est à court terme. Et à long terme, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. Donc c'est en fait dire qu'un système est robuste, c'est qu'il a une forme de stabilité dynamique. Ce n'est pas la ligne plate, quoi. C'est quelque chose qui oscille un petit peu tout le temps et qui, comme ça, peut gérer des fluctuations extérieures. Parce qu'il y a du jeu dans les rouages à l'intérieur. Il y a des marges de manœuvre.
Le meilleur rempart, je vous cite encore parce que ça permet de comprendre un peu, le meilleur rempart contre les fluctuations aléatoires du monde extérieur, c'est l'oscillation interne du système. Je trouve ça assez joli. C'est-à-dire, au fond, il y a du mouvement partout, tout le temps, encore plus aujourd'hui. Donc, si on n'est pas capable de bouger un peu nous aussi, si on est complètement rigide, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher.
Exactement. Bah, en fait, on peut, un exemple typique pour ça, c'est la méiose, donc la division qui fait les gamètes chez nous, chez les humains et chez tous les organismes vivants, hein, à peu près, les eucaryotes. Quoi. En fait, c'est une division, on parle de reproduction, hein, reproduction sexuée, mais le mot reproduction est mal choisi, parce que quand on se reproduit, on sait bien que les enfants ne ressemblent pas aux parents.
Ouais,
ouais. Bah, là, il y a du jeu dans les rouages. Ça veut dire qu'en fait, les chromosomes sont cassés, sont rabochés, enfin voilà, c'est un petit peu tout mélangé. Donc là aussi, il y a des cohérence à tous les tournants. Hein. C'est une division qui promeut les erreurs. Hein. Donc autant dire que c'est vraiment pour faire de la reproduction. Donc vous voyez, les incohérences sont à tous les rayons. Et ça, bah, ça fait du brassage génétique. Et du coup, ça fait une population qui est plus diverse, qui a augmenté sa diversité génétique, qui est plus hétérogène et donc qui est mieux à même de résister ou d'aborder un monde qui devient très changeant.
Donc, oui, oui.
Voilà, c'est juste cette idée-là. C'est juste pour illustrer que même dans nos vies, en fait, le fait que nos enfants soient différents de nous, eh ben, ça dit l'incohérence biologique fondamentale du vivant et peut-être donc des leçons à prendre pour nous.
Alors, vive l'incohérence, mais jusqu'où, hein, autour de la question pourquoi faire l'éloge de l'incohérence, je propose un nouvel éclairage en forme de question soulevée par une dramaturge engagée, Antonia Taddei, qui tisse à travers des ateliers interdisciplinaires de nouveaux liens entre science et société. On l'écoute.
Ça m'inspire deux choses. La première, c'est la relation au chaos. On a cette idée du chaos comme une force négative, alors que moi, je vois le chaos comme l'origine de la vie, un moment où tout est possible, où tout doit se structurer. Et donc ça, c'est... Enfin, j'aurais beaucoup à raconter sur le chaos, ça, qui, à mon avis, est quelque chose de passionnant. Et il y a une espèce de peur de ça, alors que ben, voilà, c'est comme une tempête. Ça peut faire du bien, ça peut permettre aux graines d'aller justement peut-être sur un autre continent. Enfin voilà, il y a quelque chose qu'il faut aussi savoir recevoir de ses forces. Et puis ça m'inspire aussi des choses par rapport à la résilience. On a des chercheurs qui nous ont parlé du fait qu'il y avait effectivement des choses qui semblent se répéter. Donc ça semble être incohérent. Pourquoi avoir plusieurs fois des choses qui ont l'air de faire la même chose? Ben oui, ils ont l'air de faire la même chose, mais peut-être que s'il y a une sécheresse particulière, eh ben, y en a une qui ne va pas marcher et du coup l'autre marchera. Et inversement, s'il y a des temps humides, donc cette résilience, cette redondance, cette incohérence, en fait, peut offrir une forme de résilience.
Vous voulez réagir peut-être, Olivier Hamon, ou compléter les propos d'Antonia Taddei, notamment sur la résilience et sur le chaos aussi, je me doute.
Oui, ouais, bah, j'aime bien l'idée de se nourrir des tempêtes. Hein. C'est le monde qui vient, mais de toute façon, ça a toujours été le cas. Finalement, ce sont les fluctuations qui nous font évoluer. Alors, sur la résilience, moi, je suis plus critique que par rapport à la robustesse. Oui. C'est pour ça que j'emploie le mot de robustesse, oui. Et pas le mot de résilience. En fait, tout dépend de comment on définit la résilience. Et tel que le dit André Taddei, c'est une résilience socio-écologique, la capacité à se maintenir, à s'adapter, à se transformer dans un monde fluctuant. Mais la résilience dans le monde néolibéral, économique, social dominant, c'est plutôt une injonction à tomber pour se relever. Et ça, c'est très problématique, évidemment. Hein. C'est plutôt fataliser le désastre et délégitimer les résistances. Donc, ça peut être problématique. Mais c'est un petit bémol sur le mot résilience. C'est pour ça que je parle de robustesse, qui permet de réenchanter le risque.
Ah, de réenchanter le risque, parce qu'au fond, le risque, il est devant nous. Le risque, il est partout. Déjà, d'être vivant, c'est quand même un peu un risque.
Absolument, absolument. Et en fait, nous, qui sommes un peu coincés dans ce dogme de la performance, on veut slalomer entre les risques. On veut être agile pour aller entre les risques. Bon, en fait, non, là, les fluctuations sont telles qu'il va falloir plutôt prendre le risque comme une base de départ, voilà, un principe de base, et donc construire sur ce niveau de risque. Et donc, ça veut dire prendre des marges de manœuvre, et donc, ça veut dire faire de la robustesse.
Faire de la robustesse, accepter l'incohérence, les frictions, ce qui ne marche pas, parce que c'est ça aussi qui assure, vous l'avez dit avec cet exemple des enfants qui ne ressemblent pas aux parents, c'est ça qui assure la biodiversité. On emploie beaucoup ce mot biodiversité, mais au fond, c'est partout et à tous les étages qu'il faut qu'on comprenne son importance. Et la biodiversité, là aussi, ça naît de l'incohérence, ça naît des essais et des erreurs.
Exactement. Et donc, en fait, la biodiversité, ben, un exemple dans le monde technique des humains, c'est la technodiversité. Ouais. Si on veut vraiment l'élargir complètement. En fait, dans le monde robuste, on ne veut surtout pas favoriser les technologies les plus performantes. Parce que si on privilégie les technologies les plus performantes, ça veut dire qu'on écrase toutes les autres. Et du coup, si le monde change tout le temps, il faudrait plutôt avoir un ensemble de techniques disponibles. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas ajouter à l'effondrement de la biodiversité un effondrement de la technodiversité. On aura besoin d'une diversité de solutions. Et donc, c'est un autre rapport même à nos savoirs, à nos savoir-faire. En fait, le critère de robustesse devrait l'emporter sur tout le reste, quoi, finalement. La robustesse, c'est un principe de base dans un monde fluctuant. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Il faut être robuste dans un monde fluctuant. Et c'est aussi une méthode. Il faut commencer par la robustesse, un critère de tri sur les solutions finalement.
Et par rapport à notre monde de plus en plus numérique, vous parliez de nos gadgets, du fait que nous soyons addicts aussi à tous ces éléments, vous dites une diversité technologique également, mais dans un monde numérique c'est possible, parce que là encore, hein, on est très enfermé dans une cohérence, dans du toujours mieux, toujours plus fort, toujours plus vite.
Oui, c'est un vrai risque. En fait, c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre maintenant, parce qu'en fait, on est dans un monde qui est obsédé par la performance. Et en plus, les machines que l'on suit elles-mêmes sont très cohérentes parce qu'elles sont algorithmiques. C'est du calcul, hein, tout ça. Donc, c'est hyper cohérent. Alors, en fait, ce que d'ailleurs, je le dis, hein, c'est que notre relation au monde, ça ne passe pas par le calcul. C'est que parfois, on pense qu'on est un peu des cerveaux qui sont portés par des corps. Et puis, les corps servent juste à transporter notre cerveau. Quoi. Alors non, hein, notre cerveau, grosso modo, il ne fait que du calcul. Hein. Notre relation au monde passe par le corps, nos interactions corporelles avec le monde. Donc, c'est les sens, les odeurs, voilà, tout ça. Le toucher, évidemment. Donc, c'est tout ça qui nous fait nos relations au monde. Et donc, évidemment, qu'il y a plein d'incohérences, plein de contradictions. Mais c'est ça qui fait la richesse de la vie, hein, finalement.
Au quotidien et à l'intérieur de vous-même, vous vous en rendez compte? Enfin, vous avancez en travaillant cette question de l'incohérence qui, au fond, nous fait aussi souffrir au quotidien, dans nos vies, nos propres incohérences, nos propres contradictions, nos propres erreurs, nos propres frictions. C'est compliqué, hein?
Ah bien sûr, alors c'est sûr, on a plein de contradictions. Hein. Là, il y a sur Arte, là, en ce moment, il y a un documentaire sur IKEA hein, qui dit qu'ils sont...
la chaîne de magasins.
La chaîne de magasins qui est donc neutre en carbone en 2030 hein, et qui fait un désert sur Terre, hein, qui est en train de tout déboiser, détruire la biodiversité. En même temps. Et en plus, en affichant des valeurs écolo. Quoi. C'est vraiment... Donc en effet, on est exposé à de très, très, très nombreuses contradictions. Mais encore une fois, voilà, c'est pas l'objectif de cohérence, je ne le remets pas en cause, c'est vraiment l'injonction de cohérence d'abord. Quoi. Ça, c'est très problématique parce que du coup, ça empêche de réfléchir. C'est une fabrique de l'ignorance, finalement.
C'est ça. Et dans un monde qui se bipolarise et qui est multicrise, c'est compliqué aussi. Hein. Vous parlez tout à l'heure d'une sorte de dérive sectaire. On peut parler aussi d'une forme de pensée unique, trace et qui avance et qui est dangereuse.
Oui, absolument. Alors, c'est l'exemple typique, c'est ce qu'on enseigne en école de commerce. Hein. Dans les années 70, on enseignait aux étudiants tous les modèles économiques et il y avait des discussions. Quoi. Là, on a réduit la voilure énormément. Hein. Le modèle néolibéral écrase tout. Quoi. Ça, c'est une forme de pensée unique et c'est très problématique. Hein. Après, voilà, on a des présidents qui nous disent le réarmement. Quoi.
C'est ça. Autour de la question pourquoi et comment faire l'éloge de l'incohérence, moi je me demande au fond si cette incohérence et puis cette pour tenir justement cette robustesse, est-ce que ça n'a pas des liens avec l'improvisation? On va y arriver en musique, vous allez comprendre, mais ça n'a pas un petit lien avec l'improvisation, ça?
Olivier Hamon. Moi qui aime beaucoup le jazz, dans l'improvisation, en fait, on rebondit sur les erreurs, sur ce qui vient, et en fait, c'est quand c'est cohérent que ça marche pas finalement. C'est quand ça commence à devenir que ça frotte quoi, quand il y a de la friction, c'est ça qui donne du relief à une improvisation. C'est que l'intention, elle est nourrie par le lâcher prise finalement, qui laisse venir ces événements imprévisibles quoi, mais qui viennent bifurquer, qui viennent nous faire bifurquer quoi.
Voilà, vive les bifurcations. Alors on n'a pas choisi du jazz, mais c'est pas très loin. Il y a aussi de l'improvisation et beaucoup d'imprévus. Dans la playlist du mois sur RFI, c'est le dernier album de Chinese Man qu'on vous propose d'écouter, mixé d'ailleurs par le labo RFI. S'il vous plaît, on écoute Trouble, signé Chinese Man.
Yo, Chinese Man. Say she no feel like wait. Hold on. You're fibrous. Penny a back. Galtic. Don't talk. Body firm. It a clap, get your phone, make a pose, then a snap. Panigong, bend your back, do the 9:30, 10 o'clock. Door knock, bed a rock, full of action. In a the place and we up, they push the light up. Then we come in like a deity kite, we want bus, we split light up, Santa where they cut them.
We a party, we not in and off. Me send a man to me, ting a girl alone for a touch me. She back it up on me like she a fuck me. She back it up on me like she a fuck me. Me tell her if you drop it, stop it, watch it, clap it. Up in the party, we strap with the. Them boy, they broke them only black in traffic. No, they pan we level, nothing we bracket. John Dayana drink white rum. Dollar car said them feel like home. She bring the supper for me beat like drum. Party a night, you know feel like we run the kush, they light up. Then me come like a BG kite, we want boss way. Spliff light up, Santa where they cup there. We a party, we not in and off. Me send a man to me, ting a girl alone for a touch me. She back it up on me like she a fuck me. She back it up on me like she a fuck me. Girl, you for a travel, shape like a model. Coca-Cola bottle, you not go wobble. Bad man day, I fear if you want bad. Love off your style, girl, sit down in a saddle. She ride it, turn up the bass. Damn, fuck up the place. Cram, me she a brace. Pan, say she don't feel like weight. You feel a travel, shape like a model. Coca-Cola bottle, you not go wobble. Bad man day, I feel if you want bad. Love off your style, girl, sit down in a saddle. Well, I know. You feel brace, pen your back. Girl tick, then talk. Body firm, hit a clap. Get your phone, make a post, then a snap. Panic ground, pen your back. To the 9:30, 10 o'clock. Door knock, bed a rock. Me full of action. Turn up the bass, damn. Fuck up the place, cram. Me she a brace, pan. Say she no feel like we in the place, I will.
Trouble sur RFI, Chinese Man, notre favori dans la playlist du mois sur RFI. Oh, ça doit vous inspirer, ça, Olivier Hammond, des rythmes aussi troubles et un peu bancals.
Oui, exactement, c'est un peu comme quand on marche. Hein. Quand on marche, on n'arrête pas de tomber, en fait. Hein. Donc, c'est typiquement incohérent, là aussi.
Et c'est ça.
Sur l'improvisation, c'est un peu pareil. C'est, en fait, une bonne improvisation, c'est quand il y a une belle contrainte. C'est la contrainte qui libère la créativité, finalement. Ben, voilà, ça, c'est typiquement incohérent aussi. Quoi.
Voilà, encore un paradoxe hein, de l'incohérence. Autour de la question, pourquoi faire l'éloge de l'incohérence à l'œuvre dans tout le vivant, Olivier Hammond, pour envisager de nouvelles approches, notamment de gestion de crise auxquelles nous, humains, sommes confrontés comme tous les vivants. Eh bien, je vous propose un dernier éclairage, vu d'ailleurs, vu du Sud, précisément de Ouagadougou au Burkina Faso. C'est celui d'un chercheur. Alors, lui aussi, hein, c'est le jour. Interdisciplinaire et très indiscipliné. Il s'appelle Zakaria Tiemtoré de l'École normale supérieure du Burkina Faso. Il est sociologue, spécialiste en management de crise. Il travaille, entre autres, au changement par l'éducation. Zakaria Tiemtoré était récemment à Paris à l'invitation de l'ENS, École normale supérieure. Et il nous a laissé cette réflexion pour vous.
Ce qui peut être en fait présenté comme une incohérence peut être en fait parfaitement cohérent pour d'autres personnes. C'est là tout le défi en fait, parce que au fond, c'est toujours d'où on regarde en fait le monde. Et finalement, oui, ben, si vous regardez le monde à partir d'une certaine position, vous ne le percevez pas de la même façon qu'une tierce personne. Et j'arrête pas de dire, justement, avec ceux avec qui je travaille, que aussi bien la cohérence que les rationalités, c'est toujours difficile parce qu'on perçoit le monde tel qu'on est. Quel que soit le travail, les efforts que l'on fait sur nous, sur nos biais, nos biais nous portent quand même. Et un individu est aussi avec ses symboles, ses croyances, ses mythes. Et à un moment, c'est d'en avoir pleinement conscience et de se dire qu'au final, oui, et là, en l'occurrence, je reste persuadé que l'incohérence pour A peut être totalement cohérent pour B. Et A peut ne pas avoir accès, en fait, à cette grille de lecture de B. Et tout le travail que l'on doit essayer de faire, c'est de construire en fait des espaces où A et B peuvent se rencontrer et avoir en fait des consensus. Donc quand on s'étonne, quand on me dit c'est irrationnel, je dis oui pour nous. Ou c'est incohérent, je dis oui pour nous. Vous voyez, je rajoute toujours cette petite phrase parce qu'en fait, on croit que notre façon de voir le monde, de le concevoir, d'apporter des réponses, c'est celle qui devrait en fait commander, diriger le monde. Et non, c'est plutôt qu'est-ce que tu penses? comment tu le penses ? Ah non, je ne le pense pas comme ça, moi. Mais comment on peut se rejoindre ? Et là se trouve en fait tout le défi.
Je voudrais vous faire réagir à cette réflexion quand même inspirante, inspirée hein, du chercheur aux multiples casquettes, Zakaria Tiemtoré de Ouagadougou au Burkina Faso.
Oui, alors ça me fait rebondir sur l'idée que la vérité, c'est ce qu'on vit. Ce n'est pas une vérité abstraite,
ouais,
on la vit. Et du coup, on a chacune des vérités différentes. Dit différemment, il y a une différence entre la vérité et l'exactitude. Mm-hmm. L'exactitude, on pourrait dire que c'est une sorte de vérité scientifique abstraite, mais nous, les humains, on vit, et du coup, on a chacune des vérités différentes. Et du coup, et là où je suis complètement d'accord avec ce que dit Zacharie, c'est sur les interstices, finalement, ces lieux de friction où les vérités se frottent, quoi. D'ailleurs, pour moi, le mot indiscipline, c'est ça que ça dit. Hein. Y a l'interdisciplinarité, c'est quand on mélange les disciplines et qu'il y a une intersection. Mais l'indiscipline, c'est juste l'intersection. C'est ces lieux, ces petits interstices où il se passe des choses, ces frontières fertiles. Hein. C'est ce que je dis souvent, sur une branche, il y a une feuille et à l'essai de la feuille, il y a un bourgeon. Ben, ce bourgeon, il est dans l'indiscipline finalement. Il est dans la zone frontière, dans l'interstice où il se passe plein de choses. Parce que là, il y a deux vérités qui sont proches. Quoi.
C'est-à-dire qu'il faut être indiscipliné, enfin cultiver l'indiscipline quelque part pour penser autrement ailleurs. C'est quand même ça hein, que vous nous dites, Olivier Hamon.
Alors aujourd'hui, c'est quasiment du salut public parce qu'il faut dérailler. On est tous et toutes drogués, addicts à la performance. C'est urgent de dérailler et du coup cette incohérence, ce jeu dans les rouages, alors que ce soit des luttes sociales, des projets de la robustesse de demain, voilà, je citais l'agroécologie, le tour réparable, ces projets-là, en fait, ce sont des projets qui déraillent du monde néolibéral, d'une croissance économique infinie, etc. Ils déraillent, donc ils sont totalement incohérents avec le modèle dominant, on va dire des actionnaires, voilà. Donc on sort complètement de ça et c'est vraiment vital. Si on veut réatterrir, ou en tout cas atterrir sur notre terre, être des terriens, eh ben, il faut apprendre de ces leçons d'incohérence des vivants. Et il y a des leçons à apprendre, évidemment, dans le monde social. Quoi.
J'ai envie de citer ce que vous dites à la fin de votre livre, parce que je trouve ça très inspirant, justement. Vous dites la question dans une société divisée est celle du chemin et non de l'objectif. Faire chemin ensemble, entretenu par le débat, par les contradictions et donc par une dose d'incohérence assumée. Ne pas décréter le consensus, décider de faire la route ensemble en confrontant ses idées bien avant de faire sens commun. Dans un monde fluctuant, penser que stabilité et cohérence vont ensemble, alors là je vous cite encore, c'est attacher sa ceinture dans une fusée, lancée à pleine allure et sans capacité de redirection. Penser l'incohérence comme force stabilisatrice, c'est ouvrir la porte à d'autres chemins, plus nombreux, plus complexes et plus imprévus. C'est se nourrir des tempêtes à venir pour guider notre trajectoire de société. C'est changer le système enfin. Vous êtes révolutionnaire, Olivier Hamon. Et on aime ça. Hein.
Alors, c'est du domaine public, hein, cette histoire de robustesse et d'incohérence. Tout le monde peut s'en emparer. C'est vraiment, il n'y a pas de limite, j'ai envie de dire. Mais en effet, moi, j'y crois beaucoup à ça. Hein. Et pour rester en Afrique, elle a cette fameuse philosophie Ubuntu, hein. Je suis parce que nous sommes.
Ouais.
Et ben ça, c'est de l'incohérence dans le texte, hein. Mais on voit bien qu'en fait, pour faire de la coopération, il faut parfois aller contre son projet individuel pour l'objectif commun. Et ben ça, c'est une forme d'incohérence assumée qui nous met sur le chemin. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on a vu cette histoire de robustesse là, et quand on s'engage dans ce chemin-là, en fait, on n'a pas besoin d'être déjà robuste. Juste la première pierre, ça c'est l'effet première pierre. On commence à mettre un pas dedans et ça y est, on est dans un monde beaucoup plus ouvert, où on a beaucoup plus de choix. On n'est plus enfermé dans le canal performant cohérent.
Alors ça nous donne pas mal d'inspiration et pas mal d'espoir, on en a besoin en ce moment. Vous-même justement, à la fois dans votre vie quotidienne, dans vos actions, dans votre travail de chercheur très ouvert, qu'est-ce que ça a changé et comment est-ce que la science, les chercheurs peuvent s'en emparer aussi hein, parce que on l'a dit, hein, science c'est plutôt la cohérence, comment est-ce qu'on peut justement faire avancer les choses ensemble? Est-ce que vous, ça a changé quelque chose dans vos recherches, dans votre travail, dans votre manière de vivre aussi?
Oui, alors moi, ça a changé beaucoup de choses. Je suis plus sorti du laboratoire. Je suis allé plus voir le monde social, les entreprises, les associations. Et alors, c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets extrêmement prometteurs, extrêmement positifs, avec des gens qui ont vraiment la banane, quoi, qui sont heureux d'être dans ce nouveau monde. Et c'est très engageant. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où à la fois, il y a le délire de la performance, donc c'est les Elon Musk et leur fusée, Sam Altman et son intelligence artificielle, enfin, tous ces projets vraiment littéralement délirants. Et à côté, donc ça, c'est l'ancien système, le cœur du système faisandé, quoi. Et puis, il y a les marges. Et alors là, il y a des projets extraordinaires. Alors moi, c'est presque comme ça que je soigne mon éco-anxiété, finalement. C'est que je vois tous ces projets et c'est vraiment le monde de demain engageant qui est en train de se construire et c'est bourré d'incohérences, bourré de contradictions, c'est carrément autre chose, mais c'est extrêmement riche. C'est de la diversité à tous les tournants. Quoi.
C'est ça. Donc attention, ne prenons pas des vessies pour des lanternes. Et ceux qui nous parlent d'un nouveau monde, les Elon Musk que vous avez cités, c'est pas dans ce sens-là qu'est le nouveau, le neuf et ce qui va nous inspirer. Attention, quoi.
Exactement. En fait, ce que nous dit Elon Musk et compagnie, c'est le piège des somnambules, quoi. C'est en fait, on attache sa ceinture dans la fusée et c'est la trajectoire exponentielle qui se termine mal, quoi. Donc c'est mieux atterrir, vivre avec les fluctuations à la surface du monde, voilà. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, on est vraiment vivant quand on vit avec les fluctuations.
C'est ça, soyons vivants et on peut l'être et on pourra l'être. Un grand merci, Olivier Hamant, d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu, Rhône-Alpes à Lyon. Alors, je dis merci sur place à Chantal Nouvelot qui nous a assisté à la technique. Et puis, je rappelle bien sûr le titre de votre dernier ouvrage, Olivier Hamant, de l'incohérence, philosophie politique de la robustesse qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob et dont je vous rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, que nous avons un exemplaire et un seul à vous offrir. Il vous suffit de nous le demander sur notre page Facebook ou par mail en nous précisant bien votre adresse postale pour qu'on puisse vous le faire parvenir. Merci Olivier Hamant. Alors je ne sais pas sur quoi vous travaillez, mais je m'attends au plus imprévu possible. Donc je vous dis à bientôt quand même. Vous revenez quand vous voulez.
Merci.
question@rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h temps universel. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs, dans notre système solaire et même au-delà, pour y découvrir les effets de marée dans la formation des planètes et des exoplanètes, ça promet, et même un océan sous une des lunes de Saturne. Ce sera avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Un grand merci pour votre fidélité, votre interactivité, vos questions nous inspirent. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.